hérité. La loi fondamentale du Chili est héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. De la tension avant le scrutin, cette semaine, des affrontements ont éclaté dans la capitale, Santiago. Corinne Diacre, de retour avec les Bleus, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football a subi un nouveau test Covid et ce dernier est négatif. Elle pourra donc être auprès de ses joueuses mardi pour le match contre l'Autriche, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2022. Voilà, et puis du football à suivre aujourd'hui chez les hommes, 8e journée de Ligue 1. À 15h, Bordeaux-Nîmes, Brest-Strasbourg, Metz-Saint-Etienne, Montpellier-Reims. À 17h, Nice-Lille. À 21h, le choc entre Lyon et Monaco. Sachez que le match initialement prévu entre Lens et Nantes a été reporté. Le RC Lens connaît une épidémie de Covid-19 au sein de son effectif.
Demain, sur France Inter, comment bien vivre le télétravail.
10h, Thomas Chauvineau.
Dans Grand Bien vous fasse, on vous donnera toutes les clés pour travailler à la maison sans finir avec le dos en vrac, adopter les bonnes postures, détendre la nuque, mais aussi faire du sport avec des tutos tout en évitant l'osto. Vos questions, vos témoignages dès maintenant sur franceinter.fr.
Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne en mode interactif.
Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
France Inter aime
The Undoing, la série événement avec Nicole Kidman et Hugh Grant, diffusée demain en exclusivité sur OCS.
There are moments when we can just lose ourselves.
Le mensonge peut tout faire basculer.
We are investigating a crime, so if you know something, tell us what it is.
Tout finit par se savoir.
I'll fix this.
Retrouvez The Undoing demain à 21h sur OCS en partenariat avec France Inter.
On va déguster avec le golfe du Morbihan et ses bonnes huîtres bretonnes. Partons à la rencontre de savoir-faire exceptionnels. Voyageons ensemble sur golfedumorbihan.bzh.
Merci d'être à l'écoute de France Inter. Il est 11h passé de 4 minutes. Vous retrouvez tout de suite On va déguster en compagnie de François-Régis Gaudry.
On se retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité.
Oui, bien sûr.
Mmh, c'est bon.
C'est un fruit rouge sang, sous une écorce prête à éclater. La grenade a longtemps été oubliée, jusqu'à ce que Jean-Claude Perretto relance sa culture.
Regardez ça, comme c'est beau. Il y a quelque chose de mystérieux dans la grenade. Et c'est le fruit universel, quoi.
La mode de la grenade a désormais gagné la France. Sa consommation a triplé en 10 ans.
Si j'ai une grenade le matin, au petit déjeuner, ça les vit jusqu'à 100 ans.
Le goût légèrement acidulé de la grenade fait ressortir les saveurs. Personne ne lui résiste, pas même les grands chefs.
On la prend comme ça et on tape dessus pour faire tomber tous les grains.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. On n'entend parler que d'elle en ce moment sur la scène gastronomique. Elle a du succès grâce à sa beauté pulpeuse et intrigante, grâce à ses pouvoirs nutritionnels proches du miracle et grâce aussi à son goût explosif qui joue ses notes orientales dans notre cuisine de tous les jours. On dégoupille la grenade, un fruit bien de saison avec nos deux invités du jour. Un invité qui la cultive et une invitée qui la cuisine. L'invité qui la cultive, c'est Jean-Claude Perretto, bonjour.
Bonjour.
Vous avez relancé en 2007 la culture du grenadier. Où ça? En Provence, ici, en France. Vous conduisez 10 hectares de vergers en agriculture biologique. À Domazan, c'est dans le département du Gard. Vous aimez à dire que vous vous situez à mi-chemin entre le pont du Gard et le pont d'Avignon, c'est bien ça?
C'est exact, parce que les ponts, c'est très intéressant.
C'est ça, et vous avez rapporté des grenades, on en a sur le plateau dont on va déguster, issus de vos propres vergers.
Un petit panel.
Ainsi que des produits dérivés, parce que vous faites bien des choses très vertueuses avec vos grenades. De véritables trésors.
Mais oui, il y a du jus d'abord. Et puis ensuite, on a fait une bière à la grenade qu'on a lancée sur le plan local cette année et qu'on espère pouvoir la distribuer sur le plan national l'année prochaine.
On la goûte ensemble dans un instant.
Voilà.
Malgré notre protocole très strict, on fait très attention. Nous sommes tous masqués au micro dont on va déguster. L'invité qui cuisine la grenade à nos côtés aujourd'hui, c'est Noah Baz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libanaise, médecin pédiatre. Vous vivez entre Paris et Beyrouth. Vous êtes passionnée de gastronomie. Fondatrice du prix littéraire Ziryab qui récompense chaque année un livre de gastronomie francophone, autrice de nombreux livres de cuisine, dont le dernier, qui est évidemment
un véritable cri d'amour à votre fruit préféré. C'est la grenade, 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. Il est là, on vient de l'avoir. Bah, il est rouge grenat, assez logiquement. Ouais. Il n'est pas discret sur le plateau dont on va déguster. Et il est plein de très belles recettes, principalement orientales. On peut dire que les droits d'auteur vont...
intégralement à l'association Les Petits Soleils, que j'ai fondée il y a 23 ans.
Absolument, et qui vient en aide aux enfants défavorisés du Liban.
Absolument.
Dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson et Antoine Gerbel, bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Elvira, vous êtes exceptionnellement à distance, car vous êtes en reportage, vous n'avez malheureusement pas pu nous rejoindre dans notre studio. Comment allez-vous ?
Ça va très bien, et vous ?
Ça va. Alors aujourd'hui, au menu de votre chronique, Elvira ?
Je m'intéresse à un autre fruit rouge qui est à la base de grands plats ouzbeks et l'iranien.
Ah, qu'est-ce que ce pourrait être ?
Eh
bien, la solution des jeux tout à l'heure dans l'émission, Antoine.
Eh bien, moi, la grenadine m'inspire. Alors, je ne vais pas vous parler de vin de grenadine ou de vin de grenade, la belle ville andalouse, mais ce que peut évoquer la grenadine dans certains vins, et il y a un vin mystère derrière.
Il y a un très joli vin rouge qui déjà brille de tous ses éclats dans nos verres. Toutes nos recettes, nos infos pratiques, le podcast de nos chroniques et de nos émissions sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de lancer une grenade sur le plateau dont on va déguster, je tiens à vous faire goûter quelque chose de très doux, de très régressif. C'est une pâte marron que vous portez à votre bouche, chacun à sa cuillère, évidemment, pour des raisons sanitaires évidentes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous identifié une pâte à tartiner ?
Oui.
Ah, bravo Antoine.
Une pâte à tartiner, je pourrais pas dire la marque. Je trouve ça bien plus subtil et croquant que la plus célèbre qui commence par un N qui finit par ce qu'on sait.
J'ai commercialisé pendant 15 ans.
Ah, ah d'accord, bah bravo.
Ah, bah, elle est pas part. Très moelleux en bouche. Hein.
Très onctueuse, je trouve.
Très onctueuse,
très
Nora.
Onctueuse, elle est comme du velours.
Très bien.
Jean-Claude. Il y a de la longueur en bouche.
Ouais, vous aimez ou pas ?
C'est très
moi j'adore.
Bon, c'est sûr que c'est pas une pâte à tartiner classique.
Non, il y a quelque chose de particulier évidemment cette pâte à tartiner. Ce n'est pas la fameuse pâte commençant par un N. Il ne faut pas être grand clair pour identifier une pâte à tartiner à base de
noisettes.
Très bien, bravo Noah, à base de noisettes, et pour cause, il y en a de la noisette, et en grande quantité, 37...
Oui, j'allais dire, il y a au moins le double.
37,5% de cette pâte à tartiner est composée de noisettes, ce qui est quasiment le triple du Nutella, allez, on peut le dire, qui en contient que 13%, et ce ne sont pas de surcroît n'importe quelle noisette, puisque ce sont des noisettes bio et équitables de Turquie. L'autre originalité de cette pâte à tartiner, figurez-vous, c'est qu'elle ne comporte pas d'huile ajoutée. Aucun risque d'y trouver de l'huile de palme, puisque le gras de cette pâte à tartiner est apporté par des noix de cajou. Il y en a autant que de noisettes, c'est-à-dire 37,5% si vous faites le calcul. 75% de cette pâte à tartiner est composée de fruits à coque. Le reste, c'est du sucre, mais du sucre de canne brut pour 20%. Et les 5% qui restent, eh bien, c'est de la poudre de cacao, issue du commerce équitable. Il n'y a aucun additif. Et cette pâte à tartiner, au profil particulièrement vertueux, est un produit made in France. Il vient d'être lancé par la marque Pépite, le numéro 1 français des fruits secs bio installé à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont développé depuis plusieurs années près de 40 filières bio et équitables dans 21 pays. Et figurez-vous que, vous savez pourquoi est née en fait cette pâte à tartiner ? C'est ça qui est assez génial. Ils cherchaient une solution pour recycler ce qu'on appelle les écarts de triage. Autrement dit, les noisettes et les noix de cajou, bonnes sur le plan organoleptique, mais pas très présentables, avec des défauts visuels.
C'est super.
Et ben voilà, la solution, cette excellente pâte à tartiner équitable et bio de la marque Pépite. 7,90€ le pot de 300 grammes. Hein. Bon, il faut y mettre un peu le prix, c'est plus cher. Mais c'est à retrouver sur pas mal de sites de magasins bio, et on l'espère aussi bientôt dans des enseignes bio comme Naturalia ou Biocoop. Par exemple, toutes les informations sur le site internet de l'émission. Vous regrettez, Elvira, de ne pas avoir goûté cette pâte à tartiner ?
Mais tellement, vous pouvez m'en garder un peu ?
C'est promis.
Non, vous empêchez Antoine de tout terminer.
Nous en avons quelques pas au bureau.
Je
promis,
surveille.
Promis, il y en a un pour vous, Elvira. On vous sait particulièrement gourmande. Vous avez un coup de cœur solidaire à nous signaler.
Oui, je voulais dire un mot de la 5e édition du Refugee Food Festival qui se clôt aujourd'hui. Une édition, cette fois, uniquement française pour cause de Covid qui a compliqué l'organisation. Ce sont 50 restaurateurs donc à Dijon, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lyon, Paris-Rennes, qui ont ainsi invité une cinquantaine de cuisinières et cuisiniers réfugiés venus d'Irak, de Géorgie, du Soudan, du Pérou, de Syrie, à partager leurs fourneaux et leurs recettes pendant les 3 semaines qu'a duré ce festival. Une équipe formidable qui a également, ces derniers temps, redémarré l'aide alimentaire dans laquelle elle s'était lancée pendant le confinement. Je rappelle que c'était 35 000 repas qui ont été proposés pendant cette période. Depuis quelques jours, là, ils fournissent notamment les Restos du Cœur et la Chorba. Par ailleurs, ils ont lancé un formidable programme de formation diplômante pour les cuisiniers réfugiés. Ce sont ainsi 12 personnes qui en bénéficient cette année, venues du Tibet, du Soudan, d'Afghanistan, d'Éthiopie, qui après 6 mois de cette formation peuvent travailler en restauration collective. La preuve, encore une fois, que ce soit par ce festival en lui-même ou ce programme de formation, que la cuisine est, comme toujours, un langage commun et universel et un levier d'action absolument génial.
J'imagine que vous êtes d'accord avec cette initiative, cher Noah Baz, du Refugee Food Festival.
Ah mais absolument, je trouve ça fabuleux, la table rassemble, la table construit des ponts, moi je préfère des ponts aux murs. Je trouve que c'est formidable de donner la chance à ces jeunes réfugiés de pouvoir se refaire une vie. Et quoi de mieux que la nourriture et la gourmandise pour ça?
On vous retrouve tout à l'heure, Elvira. Merci beaucoup. L'émission est réalisée par Laurent Thomas, avec Alix Barrois à la technique, Margot Page à la préparation. Notre programmateur musical, Djoubaka, nous fait voyager dans l'univers métissé de David Walters avec le titre « Manier ». On égrène la grenade dans un instant. Bon appétit sur France Inter. La grenade est lancée sur le plateau dont on va déguster.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Les grenadiers gardent leur feuillage vert toute l'année, ce qui ajoute à leurs nombreuses qualités, celle de donner aux consommateurs les secrets d'une jeunesse éternelle. La récolte des fruits commençait au début de l'automne. Les petits grains frais laissez éclater leur parfum dans nos palais novices. Les grands nous recommandaient de bien les mâcher
pour en extraire et comprendre toutes les saveurs. Nous le faisions avec application, avec en fin de parcours une langue râpeuse et blanche. Plus les fruits étaient lourds et plus la chair promettait d'être pulpeuse. Mon grand-père m'expliquait qu'une grenade mûre se reconnaît au bruit métallique qu'elle produit lorsqu'on lui tape dessus. Le son retenu est toujours appliqué depuis.
Merci Noah Baz d'avoir lu un très bel extrait de votre propre prose qui introduit « Grenade, 10 façons de la préparer », le livre que vous venez d'écrire aux éditions de L'Épure. Il sort tout juste en librairie, il est sorti il y a quelques jours.
Absolument.
C'est parfait. Le grenadier est donc pour vous, Noah Baz, un arbre fécond mais aussi familier, si j'ai bien compris. Et c'est ce que vous racontez justement dans votre préface. Vous l'avez côtoyé dans la maison familiale d'Alep, en Syrie, pendant votre petite enfance. Vous êtes d'origine libanaise, mais vous avez...
Non, je suis libanaise. Je suis née à Alep, mais j'étais déjà libanaise. Ça se passait comme ça. Vous savez, en ce moment au Liban, le futur est incertain. Le présent est plein de préoccupations, électricité, fuel, machin. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait marche arrière, on revient au moment de bonheur, on revient au passé. Et moi, mes émotions gastronomiques, les premières que j'ai eues, se sont passées dans ma toute petite enfance à Alep jusqu'à l'âge de 7 ans.
Et notamment grâce au grenadier et grâce
entre
à son fruit miraculeux.
Ben, parce que tout se faisait chez nous à la maison. Mmh. Tout se faisait à la maison. Les grenadiers nous accueillaient dès qu'on rentrait à la maison sur le perron. Vous voyez comme un tableau. Il y en avait deux qui s'enlaçaient. Un qui avait des fruits lourds, rouges, qu'on appelait le raman lafan. Lafan, ça veut dire qui est un peu acide. Et l'autre, c'était le hello, c'est-à-dire le doux. Et les deux ensemble s'entrelaçaient. Mon grand-père aimait à dire que c'était une allégorie de la vie, parce que la vie est faite de jours acides, avec de l'amertume, et d'autres doux et tendres.
Ah, belle métaphore fruitée de la vie, en effet. Jean-Claude Perretto, on voudrait vérifier quelque chose avec vous. Le grand-père de Noah disait qu'une grenade mûre se reconnaissait au bruit métallique qu'elle produit lorsqu'on lui tape dessus. Êtes-vous d'accord avec cette méthode ?
Je suis toujours d'accord à ce sujet.
Est-ce qu'on peut essayer, justement ?
Oui, on peut essayer. Ça sonne... Là, c'est mûr.
C'est mûr. Très bien. Et alors ?
Là, il y en a une, je ne suis pas sûr qu'elle soit mûre. Si, elle est mûre aussi.
Si, elle est mûre.
Et vous le reconnaissez comme ça ? Donc, vous tapez l'ongle ?
Bon, ça, on le fait un début de saison avant de ramasser. Et puis après, on attaque la récolte.
Question de néophyte, question de quelqu'un. Alors, pas moi forcément, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais égrené une grenade. D'abord, comment on ouvre et on épluche ce fruit, s'il vous plaît ? Pouvez-vous le faire en direct ?
Oui, je peux le faire en direct.
Allons-y.
Alors, je vais prendre un couteau quand même. Oui.
Vous sortez votre canif.
Il faut qu'il soit inoxydable, parce que sinon, ça tâche. Alors, donc, on fait comme si on épluchait une orange, c'est-à-dire qu'on va la tailler en quartier. Je vais commencer à nettoyer, à couper le haut.
Mais le haut, c'est là où il y a...
La corolle. Hein,
c'est ça.
Voilà. Je fais la même chose au dos.
Tout ça sous le contrôle de Noah Baz, qui a épluché à peu près 3 tonnes de grenades dans sa vie.
Ensuite...
Et là, l'avez ouverte, il y a donc différents quartiers, et
après,
tout naturellement, les grains se dégagent. Vous êtes d'accord avec cette méthode ?
Absolument.
Étrange curiosité botanique que ce fruit, tout de même, composé d'une écorce assez rigide et luisante, et à l'intérieur, une espèce de trésor composé de beaucoup, beaucoup de graines. Il y a d'ailleurs une grande énigme, c'est le nombre de grains dans une grenade. Les Arméniens ont une petite idée de la réponse.
La grenade est le symbole national des Arméniens. Selon la légende, ce fruit contient 365 pépins, soit un pour chaque jour de l'année, afin que personne ne meure de faim.
Un extrait de Arménie, les fruits du paradis, un documentaire à retrouver sur Arte TV. Mmh. Combien de grains dans une grenade ? Est-ce que vous êtes déjà pensé sur cette question, Noah Baz ?
Oui. Et c'est la même réponse que j'avais.
C'est ça.
Et que c'était le fruit, la symbolique de la grenade, de toute façon, sous toutes les latitudes, elle est bien connue. C'est un fruit fédérateur, c'est un fruit généreux, c'est un fruit qui rassemble, qui est symbole de prospérité, qui est symbole d'abondance. Justement, pour en revenir en Arménie, aux Arméniens, nous avions, c'est un des souvenirs vivaces que j'avais quand j'étais enfant, un couple d'Arméniens qui s'étaient mariés, et on leur jetait des grains de grenade.
Au
dur de beaucoup d'enfants, d'une union durable, et voilà.
La grenade, symbole de fécondité et de prospérité, mentionnée dans la Bible, hein, où elle est d'ailleurs symbole de fertilité. Elle est également très importante pour les Juifs. Revenons à cette question du nombre de grains dans une grenade, cher Jean-Claude Perrineau.
Alors moi, je suis obligé de contredire un peu tous les gens qui disent qu'il y a tant d'arilles dans la grenade, parce que ça dépend des variétés, en fait. Et ça dépend aussi de la grosseur, etc. Donc, c'est comme les êtres humains, il y a des grands et des petits.
Est-ce qu'il y a une fourchette?
Je dirais que, allez, on va dire entre 350 et 800.
C'est ça, ça peut aller jusqu'à 800.
Oui, mais dans le judaïsme, on dit qu'il y en a 613.
Très intéressant. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Jean-Claude Perrineau, on va raconter votre activité étonnante, puisque vous avez relancé la culture de la grenade dans le sud de la France, et notamment en Provence. S'il fallait situer la grenade dans l'arbre généalogique des fruits, qu'est-ce que vous diriez ?
La naissance de ce fruit, elle est entre le Kazakhstan et l'Iran. Mmh. C'est tout cet arc-là, avec le centre qui est l'Arménie, en fait. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on a cultivé depuis 5000 ans cet arbre-là, c'est grâce à l'écriture cunéiforme des Sumériens qu'on a pu relater ces événements-là. Après, il y a bien entendu, il y a eu des fouilles, on a trouvé des restes de grenades. Donc, c'est un fruit qui a été cultivé depuis très, très, très longtemps.
Et voilà. Son petit nom intime, latin, c'est Punica
Granatum.
Granatum, mais c'est... Absolument, Granatum, qui fait référence justement à cette profusion de grains. Il y a aussi un mot qu'on utilise concernant ce fruit, c'est le mot de harille.
Oui,
de quoi s'agit-il ?
Les harilles, ce sont les baies que nous consommons.
C'est ça.
Hein, donc les baies rouges, on appelle ça harille.
Chaque baie étant composée d'un pépin
et d'une
entourée
pulpe.
D'une pulpe. Mmh. C'est ça.
Exactement.
Jean-Claude Perrineau, vous avez relancé la culture de la grenade. Racontez-nous cette aventure, puisqu'il s'agit en plus d'une reconversion professionnelle.
Il y a des aventures plus importantes, mais bon, moi, j'étais en région parisienne, je venais d'être licencié, étant provençal de naissance, et je me suis dit qu'à 55 ans, je ne suis plus bon à rien au niveau, en tant que cadre, etc. J'ai dit, bon, on va faire une reconversion. Et puis, comme j'avais la fibre végétale, j'ai commencé à faire quelques études de marché. Et c'était l'arganier, c'était le pistachier. Parce qu'on ne sait pas, mais le pistachier était cultivé en France, en Provence. On a un arbre qui a 400 ans, qui est classé monument historique à Cavaillon. Donc, vous voyez, donc il y a tout à refaire et c'est un éternel recommencement. La grenade, elle était cultivée en Provence, et Pline l'Ancien, lorsqu'il s'est promené dans la province, donc s'est trouvé à dire qu'il y avait déjà du grenadier. Et ça, on le doit surtout aux Carthaginois. Donc, le Liban est issu de Carthage. Ils créent leur comptoir. Donc, en France, c'était Massilia. En Espagne, je me souviens plus les noms. Et ils ont commencé à faire les comptoirs et ils ont amené ces grenadiers. Et puis, ensuite, il y a eu des communautés juives qui se sont installées. Et c'est un fruit qui est très important dans leur religion. Et donc, il leur fallait absolument ce grenadier.
Qu'on trouve notamment sur la table de Rosh Hashanah.
Voilà. Et puis, en plus de ça, jusqu'au XIIIe siècle, il faut savoir qu'on avait un climat qui était très doux. Mm-hmm. Et donc, on cultivait le grenadier jusqu'au nord de la Loire. Et puis ensuite, il y a eu un refroidissement. Et là, donc, tout ça s'est répandu. Et il n'y avait plus que la Provence qui cultivait le grenadier. Est arrivé les fruits, les agrumes, au début du XXe siècle, qui venaient donc de l'Algérie, tout ça, puisqu'on avait des pieds noirs qui nous envoyaient leurs fruits. Et comme c'était des fruits beaucoup plus faciles à consommer, eh bien, ça a balayé la grenade. Et la grenade est devenue un fruit un peu désuet. Moi, je le dis toujours, c'est grâce à Mme Resnick, qui a une grosse société qui s'appelle Point Wonderful, qui a relancé la culture du grenadier et qui en a fait un produit phare. Et grâce à elle, maintenant, eh bien, dans le monde entier, on consomme la grenade.
Vous avez 10 hectares en
10
bio.
10 hectares, oui. Donc, c'est juste un petit confetti par rapport à ce qu'il y a autour de...
Il paraît qu'il existe même une grenade de variété provençale.
Oui. Je l'ai amenée. Hein, elle est là.
À quoi elle ressemble, cette grenade française?
Elle est très belle.
Vous la trouvez jolie ou pas, Noah?
Ah, moi, je l'adore, mais elle ressemble à celle que j'ai à Tyr. Chez moi, c'est incroyable.
Alors,
c'est exactement la même couleur, cette enveloppe un petit peu rose délicate. Ça, ouais. J'aime beaucoup.
Donc, ce n'est pas une grenade de bouche, dans la mesure où, dans les harilles, on a un pépin qui est dur. Et donc, au 19e siècle, on n'y apportait pas beaucoup d'importance, mais nous, au 21e siècle, on aime bien avoir les pépins à souffle pour consommer. Et donc, cette grenade-là, je la mets dans le jus de grenade.
Eh bien, justement, un jus de grenade que vous faites, biologique évidemment, et que Noah s'apprête à déboucher précisément et à goûter en direct. On veut votre verdict.
Déjà, la couleur est prometteuse, hein, mais je vais goûter.
Antoine, servez-vous.
Ah, j'adore. J'adore parce que c'est très équilibré. C'est pas trop âpre.
Il n'y a pas d'acrotis. Hein.
C'est un petit peu vanillé, comme dans mes souvenirs et dans la variété que j'aime. C'est très, très bon.
D'habitude, on se méfie un peu de la grenade, Jean-Claude Perretto, car pour peu que l'on consomme un peu de cette membrane blanche qui sépare les grains, cette espèce de paroi blanche qui est quand même très astringente et très amère.
Alors, je vais apporter un petit... C'est de l'acreté, en fait.
D'accord.
Mais il en faut un peu, parce que c'est là où se centrent les antioxydants nécessaires et qui apportent...
C'est rempli de tanins. C'est rempli de tanins comme un vin rouge. C'est
Antoine Gerbel.
En texture, c'est... Alors, bien évidemment, il n'y a pas l'alcool et vous avez raison, l'acreté, on parle un peu d'astringence aussi, mais la fraîcheur surtout, parce que c'est très désaltérant, c'est à la fois très épais et désaltérant.
Il est à température ambiante, mais si vous le rafraîchissez, vous ne le sentez même plus l'acreté.
Bah écoutez, bravo
et
pour
c'est
ce
bourré de bienfaits surtout. Alors.
En parlant de bienfaits justement, j'espère qu'on va avoir droit à une cure avec Noah Bass, puisque vous nous avez apporté deux des très belles recettes qui figurent dans ce livre, La grenade, 10 façons de la préparer, dans cette charmante collection qu'on apprécie beaucoup. On commence quand même par celle où la grenade est la plus présente, c'est un saladier. Alors imaginez, chers auditeurs, un saladier rempli de grains de grenade, c'est-à-dire patiemment égrené.
Absolument.
Assaisonné, j'imagine, d'une manière tout à fait particulière. Ouais. Je crois que c'est un peu votre salade best-seller. On veut la goûter.
Oui,
Antoine,
bien sûr.
Allez, on fait le service, on y va.
Voilà.
Oh, le pied. Oh. Alors ça, c'est un choc. C'est incroyable.
Ben, je suis ravie.
Est-ce que, Jean-Claude, vous arriveriez à distinguer ce qu'il y a dedans ?
Il y a des pignons.
Hein ? Une jolie rose.
Une jolie rose, il a dit une jolie rose.
Oui, il a raison.
C'est ça. C'est
alors, Antoine Gerbel a raison, il y a des pignons.
Vous voyez ?
Mais il y a un truc qui emporte cette grenade ailleurs. Elle explose en bouche, elle est juteuse, pulpeuse. Elle est acidulée, comme l'est la grenade. Mais il y a cette dimension florale.
Absolument. Et en fait, j'ai utilisé une vanille qu'un monsieur, figurez-vous, l'histoire est très belle. C'est un monsieur qui habite au Gabon, qui a lu mon livre sur le Zaatar, qui a vu un peu ce que je faisais. Et grâce à la bienveillance de sa fille, il m'a envoyé un colis entier de vanille bio qu'il fait pousser à Port-Gentil au Gabon. Mmh. Alors, je trouve ça absolument incroyable que les parfums traversent comme ça les frontières et les horizons pour venir jusqu'à nous. Et j'en ai rajouté un tout petit peu. Avec de l'eau de rose,
c'est
forcément.
Ça. Donc il y a de l'eau de rose, vanille, eau de rose.
Oui, il y a de l'hydrolat de rose, il y a de la vanille, il y a un tout petit peu de cassonade, mais vraiment peu. Alors, ce que je fais, j'égrène la grenade, je mets une cuillère à soupe environ par grenade de cassonade, je mets une pointe de vanille, je laisse bien macérer au frais, et ensuite, je rajoute de l'eau de rose, je les mets au frais, et en dernière minute, pour que les pignons ne soient pas trop, mous, je rajoute les pignons, les pistaches et mon dé. Et puis, je rajoute encore une rasade d'eau de rose.
Magnifique.
Voilà.
Comment elle s'appelle, cette salade?
En arabe, on l'appelle le rchef. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est très hydratant, qu'on mange souvent dans les périodes de jeûne, quelle que soit la religion.
Elle est vraiment exceptionnelle, cette salade.
Je suis ravie, qui en veut encore.
Je suis sûr que Jean-Claude Perretto va la faire à la maison.
Oui.
Elle est excellente.
Oui, oui. Je n'avais pas pensé avec l'eau de rose, mais si.
Ah, ben ça se marie très, très bien. Parce que l'eau de rose, chez nous, c'est un signe de bienvenue, d'accueillant, et on aime bien la mettre, et de rafraîchissant surtout.
Très bien. Un verre, grenat pour une énigme vin, c'est Antoine Gerbel qui s'en occupe.
On va déguster. Sur France Inter.
Ah.
Plouf.
Plouf. Alors là, il y a une chaussette.
Il y a une chaussette.
Sur une bouteille de vin.
Je vais me taire, je vais vous laisser vous parler. François Régis, nos invités, dites-nous un petit peu ce que vous voyez dans ce verre et ce que vous sentez. Parce que ça qui est intéressant, c'est très marrant, on a un verre de jus de grenade donc qui a fait Jean-Claude. Vous avez vu déjà la ressemblance, hein, c'est étonnant, je ne pensais pas qu'on allait avoir cette même concordance de couleurs.
Et on est en plus sur une couleur assez légère, on sent qu'il n'y a pas un excès de matière ou de tanin. En fait, c'est un vin avec une fraîcheur, des notes acidulées, beaucoup de fruits rouges. Moi j'y vois un peu de griotte, je sens un peu de fruits rouges et noirs.
Alors, L'anecdote veut que, effectivement, en évoquant la grenade comme sujet de travail, j'ai testé des vins dits de grenade, puisqu'il y en a, surtout qui proviennent soit d'Arménie, avec un cépage local qu'on connaît bien. Pas très intéressant ce qui est distribué en France. Après, il y a aussi une appellation, Grenada, le vin de Grenade, la ville de Grenade, qui commence à exister, mais qui existe très peu en France. Donc j'avais surtout envie de parler de ce sentiment qu'on a quand on goûte certains vins aujourd'hui, qui nous rappelle ce côté jus de fruits, un peu grenadine. Ces vins qui sont un peu comme dans la cuisine, la cuisson partielle, mi-cuite ou même crue. Mm. Parce que là, pour moi, c'est un peu ça. C'est un vin de macération carbonique, donc un mot technique, c'est simplement macération carbonique, c'est du raisin entier qui met dans la cuve et qu'on bouscule pas, qu'on secoue pas, qu'on écrase pas. On laisse la fermentation se faire d'une manière intracellulaire, c'est-à-dire dans la baie. Et à l'intérieur de cette baie, il se passe énormément de choses. C'est une école dite Beaujolaise, mais qui a essayé à peu près partout. Et en ce moment, dans cette mouvance de vin qu'on qualifie aujourd'hui un peu rapidement de nature ou de naturel, t'as un grenache noir qui est fait dans les Pyrénées-Orientales. Donc j'ai essayé de me rapprocher le plus quand même d'un pays de Grenade.
J'ai été voir le film.
Dans les Pyrénées-Orientales, vous avez un magnifique terroir qui s'appelle Banyuls, qui aujourd'hui est une terre malheureusement de déshérence absolue d'un point de vue viticole.
J'y étais il y a 3 jours.
Une coopération qui malheureusement n'arrive pas à relever le défi de faire travailler. C'est très dur comme terroir, donc il faut savoir qu'à Banyuls, il faut être... Une personne peut faire un demi-hectare, vous voyez, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et il y a des nouveaux venus, et là je vous parle d'un vin que j'aime énormément, il commence à faire parler de lui depuis un petit moment. Mmh. Le domaine est connu, il est très drôle, il s'appelle Yo-Yo.
Oui.
Domaine Yo-Yo.
Ah, parce qu'il y a eu Jean-Claude... Il y a eu un film dernièrement qui est passé, et donc je l'ai vu.
Voilà.
Il y a eu plusieurs vignerons qui faisaient le vin avec joie, on va dire.
Vous faites allusion à un documentaire.
Qui s'appelle Wine Calling, le vin se lève.
C'est ça, ouais.
Et donc on a effectivement Laurence Maya-Krief qui s'appelle Yo-Yo. Alors pourquoi Yo-Yo? Elle vous dit, j'étais invivable petite, j'étais super excitée, j'étais hyperactive, je ne faisais que courir à droite à gauche et mes parents m'ont donné ce surnom de Yo-Yo. Qu'elle a gardé à 35 ans quand elle a quitté sa première vie professionnelle qui était directrice commerciale dans le textile. Quand elle s'est installée, elle s'est formée à Rivesalt et à Rivesalt, elle a rencontré, on peut dire, une bande de fous furieux qu'on voit aujourd'hui exister. On peut citer, bien évidemment, son compagnon, Jean-François Nick, qui s'occupe des foulards rouges, qui est un domaine qui rayonne aussi beaucoup. Et puis, elle a rencontré Eric Pfefferling, elle a rencontré toute cette bande. Et ça fait 15 ans qu'elle fait du vin. J'avais commencé à goûter des vins qui manquaient un peu de précision, parce que je reviens sur mon analogie avec le cru. Il faut être vraiment très très précis sur la qualité de ces raisins quand on fait la macération carbonique. Si vous avez des raisins un peu déficients, des raisins, on va dire, avec une maturité très moyenne à cause des traitements chimiques, parce qu'il y a quand même ça aujourd'hui dans les terroirs les plus difficiles à travailler, tout est en désherbage chimique, et c'est pas ce qui permet de faire des vins de cette qualité. Elle est bien évidemment en bio. Et moi, je retrouve dans ces vins ce côté vivant. Alors moi, je me dis, cet été, moi, j'avais un peu une nostalgie de l'été. Voilà, on est au mois d'octobre. On a tous connu un été long, mais très beau. On a passé beaucoup de temps en terrasse, beaucoup de temps avec un verre à la main, c'est vrai, parce qu'il fallait aussi supporter ce qu'on vivait au quotidien. Et dans cette famille-là, j'ai aussi goûté les vins de Romain Lebars, qui fait des tavelles et des Lirac merveilleux, que je conseille aussi. Et Yo-Yo, alors là, vous avez une cuvée, ça s'appelle La Tranchée. J'ai appelé d'ailleurs ma chronique La Paix de Tranchée, plutôt que La Guerre de Tranchée. Et La Tranchée, c'est un territoire très très haut à Banyuls, qui fait des vins avec cette texture de schiste, parce que c'est ce goût-là aussi que le grenache amène, c'est ce goût vraiment un peu, cette dentelle un peu de pierre qu'on a en finale. Voilà, c'est un 2018, c'est en vin de France, elle aimerait beaucoup être en appellation, mais elle s'est fait blackbouler par tous ces gens qui pensent savoir faire du vin et qui en ont plein les caves et qui savent pas les vendre et personne ne veut. Et aujourd'hui, dans la région, tous ceux qui font du bon vin et qui en manquent parce que tout le monde aime ce genre de vin, ils sont pas en appellation parce qu'on les comprend pas. Non. Mais j'espère que tout ça va évoluer. 4 hectares, c'est pas beaucoup, il y a pas beaucoup de vin, elle fait 15 000 bouteilles à peu près. Les prix, alors elle dit, je ne vends rien en direct, c'est un autre métier, je ne peux pas faire ce métier. Moi, je suis avec mes gars dans les vignes, je pioche ma vigne la plupart de l'année. Donc, ce sont les cavistes et les restaurateurs. C'est entre 15 et 30 euros. C'est un certain prix, mais c'est vraiment le prix du travail et vraiment du goût du terroir.
Bravo. Bon. Cuvée La Tranchée du domaine Yo-Yo. en Catalogne Nord, hein, c'est bien ça?
Catalogne Nord, Banyuls, voilà, au bord de l'eau entre Collioure et Banyuls.
Absolument. Il paraît qu'il existe, Jean-Claude Perretto, un vrai vin de grenade, c'est-à-dire où le raisin est remplacé par les grains de grenade.
Alors Dionysos avait deux fruits, il faut le savoir. C'était la vigne, le fruit de la vigne, donc le raisin, et aussi la grenade. D'ailleurs, le vin de grenade, vous le trouvez surtout en Palestine. Et donc, vous avez à Cana, donc les noces de Cana, c'était vraiment extraordinaire. Et là, vous avez un producteur qui fait du vin de grenade. Et il a toute la panoplie, c'est-à-dire qu'il démarre avec du rosé, du rouge, du pétillant, voilà. Et son vin, j'en ai ramené, c'est un vin qui est acceptable, on va dire. Moi, je suis un peu...
À du rosé, moi, je trouve que ça ressemble un petit peu plus à l'esprit qu'on pourrait avoir de rosé qu'on connaît. Mais ça fermente très, très bien. Moi, j'ai goûté, parce que des vins de grenade à 16 degrés. Oui. C'est un fruit qui a une capacité fermenticide très importante.
Alors, il attire. Moi, j'ai non seulement du vinaigre de grenade, mais nous avons du vin, parce que c'est le prolongement un peu de la Palestine, hein, le Liban Sud. Oui. Et nous avons des grenadiers absolument incroyables. On fait du vin, on fait de la mélasse, mais ça c'est un autre chapitre. Chez nous, c'est vraiment râpeux, c'est tannique, ça fermente très bien et ça donne du vinaigre qu'on utilise souvent aussi dans les salades, dans la cuisine. Moi j'en mets dans les feuilles de vigne farcies et c'est délicieux.
Très bien.
Je voudrais rajouter un botanique. Vous avez la famille des Doux. Avec des pépins souples. Ensuite, vous avez une grande famille qui est acidulée, avec pépins durs, qui va servir certainement pour le jus. Uh-huh. Et vous avez une troisième catégorie, qui est une catégorie de grenades de type vineux. Et elle s'appelle Chiribini, et elle est originaire d'Arabie Saoudite. En Europe, on n'a pas l'autorisation, parce que le vin est destiné principalement par la vigne, mais c'est un vin.
Merci beaucoup pour ces précisions. Beaucoup d'auditeurs nous posent des questions sur les vertus nutritionnelles prétendument miraculeuses de la grenade. Vous êtes médecin, Noah Baz, vous nous répondez juste après ça. The last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. To dry my eyes, give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it.
One More Second de Matt Berninger et pas une seconde de plus pour déguster les grenades que nous a apporté notre producteur du Gard, Jean-Claude Perretto, qui fait pousser 10 hectares de grenades en agriculture biologique. Et Noah Baz, autrice de La Grenade, 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. On s'est régalé avec votre salade prodigieuse. Elvira, qui est avec nous à distance, a une question à vous adresser, Noah.
Je voulais savoir si les grains de grenade se cuisinent cuits. Est-ce qu'on peut les cuire facilement ou est-ce que ça les abîme un peu ?
C'est une très bonne question.
Non, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que ça dépend ce que vous appelez abîmer. Pour moi, ils caramélisent un tout petit peu, donc ils ne s'abîment pas. Mais j'ai l'habitude, quand je fais des feuilles de vigne farcies, mais ça c'est très personnel, vous savez, on rajoute du verjus. Au Liban pour leur donner un tout petit peu de caractère. Et moi, j'ajoute une poignée en saison de graines de grenade acides. Le goût est là et moi, j'aime bien. Donc, c'est tout. Ça
et
les abîme pas.
Et par ailleurs, cher Noah, vous êtes le sujet d'un long portrait que vous consacre le quotidien libanais L'Orient le Jour, le 6 octobre dernier, et vous y mentionniez ces recettes, car la grenade est au cœur de la cuisine levantine en général.
Absolument.
Et de la cuisine libanaise en particulier. Ouais. Le kéber emenié.
Kéber emenié, c'est la kébé, ça j'adore.
Et je rappelle que le kébé, c'est cette boulette ovale, une espèce de coque d'enveloppe de boulgour farcie de viande, vraiment une recette emblématique du Liban.
C'est une spécialité du sud Liban, mais également, on peut la trouver du côté de Tripoli dans le nord, parce que vous savez, la cuisine, chacun l'interprète à sa façon. Il y a les recettes de base et après, il y a les variations. C'est comme la musique. Donc, la kébé remaniée, c'est des tout petits kébés que je déglace, disons, avec un peu de mélasse de grenade, et je mets dessus des petits pignons torréfiés. Et c'est juste...
Splendide.
Out of this world.
La recette est dans votre livre ?
Dans la nuit de la pistache.
Ah oui, la nuit de la pistache.
Entendu. Dans l'autre livre, oui.
Profil nutritionnel de la grenade, et c'est à la professionnelle de santé que je m'adresse.
Oui.
Est-ce que c'est abusif de dire que la grenade est un véritable miracle ?
Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est d'abord le fruit de l'éternelle jeunesse. C'est un fruit bourré de bienfaits. D'abord, sa composition vitaminique est exceptionnelle, puisqu'on a de la C, de la B, tout le... C'est rare de trouver dans les fruits des vitamines du groupe B. Or là, elles sont au complet. Ensuite, il contient du cuivre, du zinc, du magnésium, tout ce qu'il faut en ce moment pour booster l'immunité. Les petits polyphénols que vous retrouvez dans le vin et dans
c'est
le thé,
magique.
Il en est bourré parce que la petite membrane blanche, justement, amère, en est bourrée. Donc, quand on le presse comme on presse une orange, on récupère également tous ses bienfaits. C'est un protecteur vasculaire. C'est un protecteur de la jeunesse cérébrale. C'est un protecteur des vaisseaux, du cœur. Anti-cancer de la prostate, ça c'est très connu, on l'utilise à fond en ce moment et on lui trouve tous les jours des bienfaits.
Et j'imagine, Jean-Claude Perretto, que toutes ces vertus nutritionnelles de la grenade n'ont pas été étrangères dans votre choix de relancer sa culture dans le Gard ?
Oui, mais d'abord j'ai fait une étude de marché, bien entendu. Et au fur et à mesure que je m'enfonçais dans cette étude de marché, je voyais tous les bienfaits de ce produit. Donc je me suis dit, là, il faut se lancer et c'est ce que j'ai fait.
Et vous le faites avec succès,
pas, oui.
Car
et puis, la preuve,
vos produits sont très sollicités.
J'ai 70 ans, donc ouais. C'est la preuve que c'est bon quand même, la grenade.
Un élixir de jeunesse,
c'est
incroyable.
De
où trouver, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent la question, où trouver vos produits ?
Alors, en région parisienne, on ne trouve pas trop nos produits.
Mais vous savez, on ne nous écoute pas qu'à Paris.
Mais toute la région Provence, dans les magasins bio, on trouve mes produits, oui.
Dans un instant, allez déboucher votre bière. On va en boire une gorgée et la confier à notre chroniqueur vin Antoine Germel. Mais je voudrais d'abord calmer l'ambiance, voire la casser légèrement, avec, écoutez bien, un extrait du grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, qui porte, c'est le moins que l'on puisse dire, un jugement à double tranchant sur la grenade en citant ce qu'en dit Coï de Lompier, un éminent spécialiste de l'époque.
Il n'y a point de belle corbeille de dessert sans grenade, non plus que sans orange. La grenade ouverte, ainsi qu'un riche trésor de rubis ou de grenats brillants, est un des plus beaux joyaux de nos grandes corbeilles. Mais aussi bien nous faut-il avouer qu'à l'exception de ce beau rôle pour la décoration des tables ou buffets, la grenade est un fruit qui n'équivaut seulement pas à la groseille. Elle ne vaut pas mieux que l'épine vinette. Et c'est convenir qu'elle n'est presque bonne à rien dans les pays tempérés où les quatre fruits rouges sont abondants et par excellence. On fait avec la grenade un sirop appelé grenadine, qui est très bon pour la toux sèche ou l'irritation. Il se fait avec les grenades dites d'épines vineuses. Une des plus belles villes, sinon la plus belle ville de l'Andalousie, a tiré son nom de sa ressemblance avec une grenade entrouverte.
Grenade, la fameuse ville de l'Andalousie, en Espagne. Merci beaucoup à Hervé Pochon qui nous a fait cette belle lecture. Jean-Claude Perretto, bon, évidemment, il est assez virulent
non,
sur...
Non, mais je le rejoins un peu. Vous voyez, je vais... Parce que ouvrir une grenade, c'est pas simple.
Non. Il y a tout un mode
donc,
d'emploi.
Il faut avoir le mode d'emploi, comme je vous ai montré.
Moi, je dirais que la grenade se mérite. Hein.
Oui. Voilà, la grenade se mérite.
Mais bon. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Il n'avait que de la grenade de France, c'est-à-dire la grenade Provence que je vous disais avec pépins durs. Je comprends qu'il soit un peu dégoûté de ce fruit.
Mais moi, il y a la grenade décorative qui n'est pas faite pour être consommée. Est-ce qu'il parlait de cette grenade-là ? C'est
peut-être la grenade ornementale.
Parce que la grenade ornementale, elle ne se mangeait pas.
Absolument.
Effectivement, sois belle et tais-toi. Mais, ouais. je veux dire, la grenade consommable d'aujourd'hui, oui. Elle peut être belle et elle est très bonne à manger également.
Nous sommes donc, d'accord et on en a la preuve.
Je rejoins ce que je disais tout à l'heure, il y a des grenades de bouche.
C'est ça.
Et voilà. Après, des grenades à jus et des grenades pour le vin.
Tournons-nous de préférence vers les grenades de bouche. Il évoquait, Alexandre Dumas, dans le Grand Dictionnaire de Cuisine, la grenadine. Quel est le rapport entre la grenade et la grenadine, ce fameux sirop qu'adorent les enfants?
Alors, la grenadine, elle a été faite d'abord en famille. Mais elle n'a jamais été faite au niveau industriel. Même il y a 75 ans, elle était déjà faite avec des fruits rouges.
Donc ça veut dire que la grenadine, au départ, dans les familles, était faite avec de la grenade?
Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs, ça a donné son nom. En Espagne, elle s'appelle la granadine. Le consommateur a été berné pendant des dizaines d'années parce que les industriels des sirops mettaient toujours la belle photo de la grenade, mais il n'y avait jamais de grenade. Et ce n'est que la répression des fraudes qui leur a dit maintenant, il faut arrêter que c'est mensonger.
C'est ça.
Et c'est comme ça que depuis une dizaine d'années, et d'ailleurs, si vous regardez les définitions dans le Larousse, d'il y a 20 ans et d'aujourd'hui, elle n'est plus la même. Hein, voilà.
Un décret publié en août 1992 indique que les dénominations sirop de grenadine sont réservées aux sirops aromatisés au moyen de jus de fruits rouges et de vanille, ou de leurs extraits et éventuellement de jus de citron.
Alors, vous voyez, c'est quand même drôle. Pour le vin, on n'a pas le droit de faire du vin de grenade. Et pour la grenadine, si demain je vais lancer un sirop de grenade, je ne pourrais pas l'appeler grenadine, vous vous rendez compte un peu? C'est gros quand même, non?
Absolument, incroyable. De la grenadine, on passe à un autre fruit oriental avec Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Elvira, votre chronique est tout aussi fruitée, mais pas à base de grenade.
Non, c'est une petite baie rouge dont je vous parle, qui s'appelle épine vinette.
Ah.
C'est le fruit du vinettier, qui est un arbuste épineux aux origines orientales, qui vivait très bien également en Europe, mais dont il a failli être éradiqué au 19e siècle lorsqu'on s'est aperçu que cette épine vinette transmettait aux plantes céréalières un champignon appelé la rouille noire.
Mmh.
Alors on en trouve encore un petit peu dans le nord de la France, de l'épine vinette. On l'épare, ces petites baies de vertus thérapeutiques. D'ailleurs, je suis en train d'en grignoter une petite poignée d'épines vinettes séchées au moment où je vous parle.
J'adore ça.
Dans l'Égypte ancienne, on les associait au fenouil pour faire baisser la fièvre. Alors évidemment, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt sa saveur. D'ailleurs, la saveur acidulée de ces baies, qui me fait un peu penser aux érelles que l'on trouve en Suède, c'est à cette saveur acidulée que l'on doit son nom de vinette. Vinette étant un des noms communs de l'oseille. On l'appelle d'ailleurs, cette épine vinette, oseille des bois, ou myrtille sauvage d'Iran.
Vous connaissez bien, Nora, l'épine vinette.
Oui, je connais très très bien, parce que ma mère était suisse.
Mm-hmm.
Et en Suisse, à Lausanne, à Genève, sur tous les marchés, on retrouvait de l'épine vinette. Et on l'utilisait justement pour aciduler certains plats, ou alors pour faire un riz à la persane.
Voilà.
Où on décorait le riz avec des petits zestes d'orange et de l'épine vinette. Et
très
c'était
bien.
Juste délicieux, j'adore ça.
Elvira?
Ben justement, ce plat que vous citez, Nora, c'est le Zeresk Polo.
C'est le Zeresk Polo, absolument. La présentation est belle et le goût est divin.
C'est un plat magnifique. Oui. L'épine vinette entre également dans la composition de plats typiquement ouzbeks. Les Iraniens ne l'utilisent pas uniquement dans le Zeresk Polo, l'épine
Bien
vinette,
sûr,
mais
non,
dans
non,
plein,
je sais.
Plein de plats traditionnels à base de riz, de poisson, de volaille, d'œufs. Moi, vous savez, François-Régis, il y a une cuisinière et autrice culinaire iranienne installée en Grande-Bretagne que j'adore. Elle s'appelle Sabrina Gayour.
Je la connais.
J'en avais déjà parlé à l'occasion de la parution de son livre précédent, il y a quelques années.
Merci,
c'était
Anna.
Un livre justement très axé sur le répertoire culinaire iranien. Alors celui-ci, c'est son nouveau bébé. Il s'appelle Bazar, ce nouveau livre. Il paraît chez Hachette Cuisine. Ce sont des recettes exclusivement végétariennes, piquées d'influences irano-indo-levantines. C'est une cuisine complètement libre, dont on peut parfois penser qu'elle part un petit peu dans tous les sens, mais Sabrina Gaillour a l'art, comme personne, de toujours retomber sur ses pattes. Quand je dis dans tous les sens, c'est qu'elle mélange des influences avec un naturel assez incroyable. Son velouté de poireaux se pare de zatar, sa pavlova, elle l'accommode avec du labneh, elle fait des nanodates, elle fait des pâtes à la harissa à la rose, des petits farcis à la mélasse de grenade, tiens, des poivrons rôtis à la vinaigrette de grenade et une formidable recette que j'ai expérimentée il y a quelques jours chez moi. Donc, je vais pas vous le prouver, hein, parce que je suis pas là. Des pains plats, très faciles à réaliser, sur lesquels elle vient disposer du halloumi grillé. Halloumi, vous savez, c'est ce fromage typiquement chypriote qu'on trouve dans toute la région et que l'on mange le plus communément un peu rôti au four ou grillé à la poêle, qui a cette texture qui fait un peu chouing-chouing comme ça. Et elle fait une petite salsa, enfin, elle appelle ça une salsa, une petite sauce, un condiment composé de citron confit et d'épines vinaigre. Alors, son halloumi, elle le fait d'abord mariner dans du yaourt et du citron vert, puis elle le grille à la poêle, et elle le sert avec des espèces de petites galettes, ce qu'on appelle en anglais des flatbread, des pains plats faits tout simplement avec de la farine, du lait, du beurre, de l'huile d'olive, et vraiment cuits à la poêle, 2 minutes aller-retour. Et elle sert ces pains recouverts de tranches de halloumi dorées, d'un peu de yaourt à la harissa à la rose, pour la note encore une fois persane, et cette sauce magique dans laquelle elle met des épines vinettes. Alors j'ai trouvé les miennes chez Escan, une géniale petite épicerie iranienne du 15e arrondissement. Vous savez, du côté de la rue des Entrepreneurs, où il y a également le restaurant gastronomique iranien Mazeh.
Bien sûr,
j'adore.
Il y a des meilleurs Iraniens de Paris, si ce n'est le meilleur.
C'est ça, qui fait des brochettes formidables. C'est un tout petit coin d'Iran à Paris. Donc elle mélange 2 cuillères à soupe d'épines vinettes séchées, 15 grammes d'aneth ciselée, aneth également une herbe qu'on trouve beaucoup dans la cuisine iranienne, 4 citrons confits épépinés et hachés très finement, un avocat pelé dénoyauté en dés, et 2 cuillères à café de graines de nigel, sel, poivre. Et elle mélange tout ça, elle n'écrase pas, on ne mixe pas, c'est juste mélangé. Moi j'ai ajouté un trait d'huile d'olive, un tout petit citron vert, et j'ai mis le noyau de l'avocat parce que je voulais garder cette sauce un peu plus longtemps que juste une heure. Mais enfin bon, c'était un peu peine perdue parce que j'ai tout mangé d'un coup.
Non, mais le noyau. Vous êtes condamnée, Elvira, à nous en refaire une version la prochaine fois que vous pointez votre nez dans ce studio.
Je m'y remets tout de suite et... Et pour la prochaine, je vous apporte un pot de cette petite salsa épines vinette, citron confit, avocat, qui est une merveille. Pas uniquement avec des flatbreads. Imaginez avec une viande froide, juste en tartine, avec un poisson. C'est, je peux pas vous dire, c'est à la fois astringent, très long en bouche grâce à la nette, frais, acidulé. C'est une merveille. Quoi.
Rappelez-nous les références du livre, s'il vous plaît, Elvira.
C'est Bazar, chez Hachette Cuisine, signé de Sabrina Gaillour.
Génial. Avec cette recette à base d'halloumi, la vie est bien faite puisqu'il y a de l'halloumi dans la deuxième recette que vous nous proposez, Noa.
Oui, bien sûr. Il y a, c'est une salade de roquette sur laquelle j'ai posé donc un halloumi, ce fromage qui est composé de 3 laits de vache, de brebis et de chèvre, que je fais dessaler, moi, un tout petit peu, parce que c'est vraiment très salé. On le trouve très facilement chez Mavromatis à Paris et chez Carrefour. Dans les Carrefour, on les trouve très facilement. Il a un goût, pour moi, unique. Il n'a besoin de rien. Vous le faites griller, vous rajoutez sur la roquette, et ensuite, moi, je me suis permise de mettre des pécanes un tout petit peu torréfiées.
Des noix de pécan.
Des noix de pécan, parce que ça, le goût torréfié répond un tout petit peu à la vinaigrette avec du jus de grenade, une pointe de mélasse de grenade, du miel, un chouïa de moutarde, et puis c'est tout. J'ai tout mélangé. Et on pose dessus et c'est juste excellent à manger. Déjà, c'est très équilibré point de vue médical parce que je peux pas oublier que je suis médecin quand je cuisine. Donc j'essaye de donner aussi de bonnes choses, mais des choses bonnes pour la santé.
Et c'est acidulé,
mais il y a du miel aussi dedans. Et j'ai rajouté aujourd'hui un peu de sirop d'érable.
Merci beaucoup pour cette salade roquette halloumi grenade. C'est absolument magnifique. On va la déguster ensemble. Dernière petite question, Jean-Claude Perretto. On a beaucoup d'auditeurs qui s'y perdent totalement dans la saison de la grenade et pour cause, lorsqu'ils la trouvent sur les étals, elle vient d'Espagne, d'Iran, d'Égypte, d'Inde, de Californie. Autant dire qu'il y a de la grenade disponible toute l'année sur les étals. La vraie saison de la grenade, si vous aviez un conseil à donner pour choisir sa grenade sur l'étal.
Bien écoutez, je confirme parce que je reçois des coups de téléphone pendant toute l'année. pour venir chercher de la grenade. Et effectivement, si aux alentours de la mi-octobre, mi-octobre à mi-novembre, selon les saisons, quoi.
Ah bon, on est bien tombé.
Voilà, bon, exactement.
On l'a fait un peu exprès.
Mais je pense.
Et quel prix raisonnable pour acheter un kilo de grenade au marché?
Alors, je dirais qu'en Provence, on est aux alentours de 6 euros le kilo en grenade de bio. Mm-hmm. Après, en région parisienne, je suppose qu'il y a des coûts de transport supplémentaires. Mais voilà, je ne sais pas.
Vous avez versé une magnifique bière dans nos verres. Un petit commentaire de dégustation, alors, car il y a de la grenade, Antoine.
Et je vais vous la présenter quand même un petit peu, si vous voulez.
En un mot.
En un mot. C'est une bière qui est destinée aussi aux gens qui sont sans gluten. Et j'ai trouvé que j'apportais un peu de gaieté pour ces gens-là, parce que je connais beaucoup de gens qui consomment sans gluten et ils étaient déçus de ne pas trouver de très bonnes bières. Alors, il en existe, bien entendu. Mais moi, j'ai ajouté du riz de Camargue et de la grenade. Voilà, il y en a 8% et c'est pas mal.
Et du sarrasin aussi.
Et du sarrasin qui est torréfié.
Ça sera proche d'une IPA en ce moment.
Exactement.
Beaucoup, beaucoup de fermentation. Et alors, très subtil, hein, la grenade, c'est d'abord un petit peu au nez et après en fin de bouche.
Très délicat. Voilà, c'est très délicat.
Et elle est 100% bio.
Elle est 100% bio.
100% française, hein, matière 100% française.
Toutes les matières sont françaises et par un brasseur qui est reconnu sur la région, et qui est la Barbode, hein, bien c'est entendu. Ça. Voilà.
Donc, vous l'appelez comment?
Ben, elle s'appelle Provence, la Miougrane de la Provence.
C'est ça, avec l'accent provençal de notre ami Jean-Claude Perretto. Un grand merci et toutes les informations sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. La grenade, 10 façons de la préparer aux éditions de l'Épure. Merci beaucoup Noah d'avoir été en notre compagnie.
C'est moi qui vous remercie.
Et merci pour vos recettes exceptionnelles. On se souviendra assez longtemps de cette salade de grenade à l'eau de rose et aux pignons à retrouver évidemment sur notre site. La semaine prochaine, figurez-vous qu'on s'intéresse à un autre boom, celui du chanvre, une filière en pointe en France, une plante bourrée de qualité nutritionnelle
pour la peau
et gustative. Voilà, bah si c'est Noah Bas qui le dit, le chanvre pour la peau, mais aussi pour vos papilles. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.